Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 15h à Tananarive. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité américaine. Le président Donald Trump et tous les ex-présidents américains encore en vie assisteront ce mercredi aux funérailles nationales de George H.W. Bush, le 41e chef d'État du pays, qui est salué depuis son décès à 94 ans comme une personnalité ayant su dépasser les lignes partisanes dans une Amérique qui se sent aujourd'hui divisée. Le prince Charles, la chancelière allemande Angela Merkel, le roi de Jordanie Abdallah II et la reine Rania, le président polonais Andrzej Duda, accompagné de Lech Walesa, ainsi que plusieurs autres dignitaires étrangers sont attendus dans la cathédrale de Washington. La cérémonie doit débuter à 16h, temps universel, en présence de Donald et Melania Trump et de la famille du disparu, dont le fils George W. Bush a été le 43e président des États-Unis. Actualité américaine toujours, le procureur spécial chargé de l'enquête russe, Robert Mueller, a recommandé mardi une peine sans détention pour Michael Flynn, éphémère conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, évoquant son aide substantielle dans les investigations en cours. Michael Flynn, conseiller du candidat Trump, puis conseiller à la sécurité nationale du président républicain pendant 22 jours, avait plaidé coupable en 2017 d'avoir menti au FBI et la police fédérale, notamment sur ses conversations avec l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Sergei Kislyak. Affaire Khashoggi maintenant. Plusieurs sénateurs américains très influents ont déclaré hier qu'il y a des indications écrasantes selon lesquelles le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman était derrière le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre au consulat de son pays à Istanbul en Turquie. Pour le président Donald Trump, le cas contre l'homme fort de l'Arabie Saoudite n'est pas convaincant, mais pour le sénateur républicain Bob Corker, président de la Commission des affaires étrangères, le prince héritier saoudien serait reconnu coupable en 30 minutes s'il se présentait devant un jury. M. Corker a tenu ses propos après une réunion à huis clos avec Gina Haspel, la directrice de la CIA, les services de renseignement américains. Élections en Afrique maintenant, Madagascar, à 2 semaines du second tour de la présidentielle dans le pays, prévu le 19 décembre, la campagne électorale qui a commencé mardi promet d'être féroce, tant le passif entre les deux finalistes est lourd. Le point avec Morgan Guriek.
Marc Ravalomanane, arrivé deuxième au premier tour, affiche une confiance sans retenue. Il n'y a que 3 à 5% de différence entre moi et le candidat arrivé à la première place du premier tour, rappelle l'ex-président. Son adversaire, Andra Joël, a obtenu 39,23% des voix contre 35,35% pour Marc Ravalomanane. Pour refaire son retard, le chef du parti Team compte mobiliser les abstentionnistes, 46% au premier tour, et surtout s'attirer le soutien de quelques-uns des 34 candidats écartés du second tour. Élu en 2002, Marc Ravalomanane a été contraint de quitter la présidence 7 ans plus tard, après une série de violentes manifestations soutenues par Andra Joël, alors maire de la capitale. Monsieur Rajoel a ensuite été installé à la tête d'une présidence non élue par l'armée. Les deux hommes ont été interdits de candidature en 2013 dans le cadre d'un accord de sortie de crise.
Élections en Afrique toujours, en République démocratique du Congo, à moins de 3 semaines des élections du 23 décembre, les 3 principaux candidats à la présidentielle battent campagne. Celui du pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary, affrontera une dizaine d'adversaires, dont 2 ténors de l'opposition, Félix Tshisekedi et le député Martin Fayoulou. Plus de détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Après une première semaine timide qui a vu seul le candidat de la coalition au pouvoir Emmanuel Ramazani Shadary se lancer à l'assaut des électeurs, les autres favoris de la présidentielle du 23 décembre 2018 ont rejoint la dynamique de la campagne électorale. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont tenu mardi un meeting au stade Afia de Goma au Nord Kivu. Les deux leaders du ticket UDPS-UNC feront ensuite Bukavu le 6 décembre, puis Kisangani le 11. Martin Fayoulou est lui attendu mercredi à Beni, ville meurtrie de la province du Nord Kivu. Le candidat de la coalition Lamuka fera ensuite Butembo, Bunia, Goma, Bukavu, Kisangani, Buta, Isiro, et Kindu selon son équipe de campagne. Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat du Front commun pour le Congo, a lui, après le Grand Katanga entamé par Gbadolite dans le nord Ubangi, la conquête de l'ouest et du nord-ouest de la RDC. Il ira à Gemena, à Lissala, à Bumba, à Bouende et à Mbandaka, des villes du Grand Équateur. Les autres candidats présidents de la République se contentent pour le moment des affiches banderoles et passages dans les médias et petits rassemblements à Kinshasa. Certains attendent que les conditions sécuritaires et matérielles soient réunies avant de se lancer dans la conquête du Congo profond. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élections en Afrique de l'Ouest maintenant. Situation sociopolitique tendue au Sénégal à quelques mois de l'élection présidentielle prévue le 24 février prochain. Cette situation inquiète les Sénégalais, comme l'indique dans ce reportage notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
À trois mois de la présidentielle, la tension politique est perceptible au Sénégal. La bagarre à l'Assemblée nationale entre députés du pouvoir et de l'opposition lors de la séance de vote du budget du ministère de l'Enseignement supérieur vient mettre de l'huile sur le feu. À cela s'ajoute un front social en ébullition avec la grève des agents de la justice et ceux de la santé. Une situation qui désole les citoyens comme Sambo Diop.
C'est une période extrêmement cruciale et par conséquent, il va falloir des comportements beaucoup plus citoyens et non pas des comportements, n'est-ce pas, de vente en guerre. C'est une élection des échéances très importante pour le Sénégal et ça doit redorer le blason, n'est-ce pas, sur le plan international. Et par conséquent, les acteurs politiques doivent donner le bon exemple au niveau des plateaux de télévision ou bien d'autres plateaux, n'est-ce pas, qu'ils aillent dans le sens de l'apaisement. Je pense que c'est mieux.
Abdourahmane, marchand ambulant âgé de 35 ans, est toujours tétanisé par la tension politique que le Sénégal a connue en 2012. Voilà pourquoi il dénonce l'agitation et la violence dans l'échiquier politique du pays.
Si l'on poursuit sur cette lancée et si les violences continuent comme ça, ça risque d'être pire qu'en 2012. Les leaders politiques doivent montrer le bon exemple afin que l'on puisse avoir des élections libres, transparentes et sans violence. La bagarre à l'Assemblée nationale n'est pas digne de nos députés. Ils doivent avoir un peu plus de respect envers le peuple qu'ils représentent. Ils doivent avoir un bon comportement et bien faire leur travail. Mais se battre devant les caméras du monde entier, ce n'est pas digne et ce n'est pas ça leur boulot.
Trouvé devant sa maison 6 à Grand Dakar dans la banlieue dakaroise, Saliou Diaw indexe le parti au pouvoir et l'opposition. Selon le natif de Thiès, ils sont tous responsables de cette violence. D'ailleurs, ce jeune estime qu'il est temps que nos dirigeants mettent fin à certaines pratiques.
Pour moi, toute cette agitation traduit le manque de confiance de nos leaders. Les personnalités politiques doivent penser au futur. Chacun d'entre eux peut aspirer à diriger le pays et on ne peut pas diriger un pays dans la violence. Donc, ils doivent tous se ressaisir, penser au peuple et à la postérité. Je pense qu'il est temps pour eux d'avoir une attitude responsable afin de laisser une belle image pour la postérité.
Ce climat politico-social tendu inquiète au Sénégal, pays connu pour sa stabilité sociale et son hospitalité. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Mali, l'ex-président burundais Pierre Buyoya, contre lequel la justice burundaise a lancé un mandat d'arrêt international en l'accusant d'être impliqué dans l'assassinat en 1993 de Melchior Ndadaye, premier président hutu démocratiquement élu du Burundi, a affirmé mardi à Bamako qu'il ne craignait pas d'être extradé. Le Burundi a émis vendredi dernier un mandat d'arrêt international contre M. Buyoya ainsi que 11 gradés de haut rang des forces de sécurité et 5 de ses anciens proches collaborateurs civils pour leur rôle présumé dans l'assassinat de M. Ndadaye. L'ex-chef d'État burundais est actuellement le représentant de l'Union africaine au Mali. Politique au Gabon, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, malade et hospitalisé depuis plus d'un mois et demi, se porte plutôt bien, a déclaré son premier ministre après l'avoir rencontré mardi à Rabat, au Maroc, où M. Bongo est en convalescence. Le processus de sa rééducation évolue très rapidement et positivement, a affirmé mardi soir à Libreville le chef du gouvernement gabonais, Emmanuel Isosen Ngondé, à son retour de Rabat. Il n'a pas précisé quand le chef de l'État rentrera dans son pays. Rappelons qu'à la suite de malaise, le président gabonais âgé de 59 ans a été admis le 24 octobre dans un hôpital de Riyad en Arabie Saoudite où il est resté jusqu'au 29 novembre, date de son transfèrement dans un établissement hospitalier militaire de Rabat pour y poursuivre sa convalescence et sa rééducation. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.